Maintenant, on va parler avec Marie-Ève Carignan, qui est professeure du département de communication de l'Université de Sherbrooke, directrice aussi du pôle média de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Et qui dit radicalisation ces jours-là dit aussi théorie du complot. Professeure Carignan, bonjour.
Bonjour.
Donc, écoutez, demain matin, en ligne, là, vous allez être partie d'un webinaire, d'une sorte de panel, si on veut, sur les théories du complot. Ça s'intitule « De l'antisémitisme à la théorie du Deep State ». Comprendre les théories du complot pour mieux y faire face. On va donner des détails à la fin de l'entrevue. Dites-moi, c'est quoi le chemin entre l'antisémitisme puis les théories du complot modernes?
Bien, on a vu des ramifications hein, qui, par rapport justement à la montée en puissance des Juifs, là, donc qui révélaient un complot qui a mené à un certain antisémitisme. Donc, c'est l'idée derrière ça qu'à différents moments dans l'histoire, hein, c'est pas apparu avec Internet, même si parfois on a tendance à le penser aujourd'hui. Les complots, il y en a toujours eu, ils ont évolué. Puis on est dans une nouvelle ère, disons, du complot où Internet est évidemment un facilitateur, mais c'est un peu autour de cette évolution-là que le titre là, a été construit. Mais demain, le webinaire va quand même plutôt là, se concentrer sur la situation actuelle.
OK, parfait. Puis la situation actuelle, vous la décririez comment en termes de prolifération des théories du complot?
L'OMS a bien décrit la situation hein, en l'hiver dernier quand ils ont parlé d'une situation d'infodémie. C'est-à-dire que très rapidement, pendant la pandémie de coronavirus, ce qui est arrivé, c'est que les fausses nouvelles puis la désinformation qui existait déjà, puis que nous, avec la chaire UNESCO, par exemple, on questionnait depuis quand même là, quelques années, ont été tellement accentuées par le fait que les gens étaient confinés, donc beaucoup présents sur les réseaux sociaux, en ligne, avaient du temps et voulaient des réponses à une situation qui était difficilement explicable. Il y a beaucoup de gens pour qui faire dire « on le sait pas, il manque de données probantes, c'est pas réconfortant, on cherche des réponses ailleurs ». Et là, ce qu'on a vu, c'est une accélération de certains phénomènes. Des thèses complotistes qui existaient déjà sur d'autres maladies, le VIH-SIDA, l'Ebola, mais là, qui ont été reprises par rapport au coronavirus et qui, là, en quelques jours, voire quelques semaines, sont installées vraiment rapidement là, au sein de la population.
Et à quel moment est-ce que ça peut devenir dangereux? Je vous pose la question parce que un de vos champs d'expertise, c'est la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent.
Oui. On voit d'ailleurs, on a sorti cette semaine là avec l'Université de Sherbrooke des chiffres. Ce qu'on voit, c'est que dans différents pays, là, la présence de ces thèses-là est très forte. Ça, c'est déjà inquiétant. Et puis, ben, on a vu déjà des montées de radicalisation violente dans les derniers mois. On peut penser, par exemple, à des jeunes un peu partout dans le monde, les moins jeunes, qui ont mis le feu à des tours, qui pensaient être des tours 5G. Souvent, ça ne l'était pas, mais ces gestes-là sont très violents. On met le feu, ça veut dire qu'on pose une action violente. Et en ce moment, ben, on voit toutes sortes d'idéologies d'extrême droite, de gauche, anti-vaccins, survivalistes qui vont reprendre des thèses complotistes à leur sauce. Et là, ça peut inciter à commettre des actes qui peuvent être violents. C'est notre préoccupation. On voit déjà parfois là, des menaces qui ont été proférées dans les dernières semaines là, entre autres vers des politiciens, c'est certain que c'est une préoccupation.
Quand il y a quelqu'un dans notre entourage qui se met à croire à toutes ces théories du complot, à des choses qui ne sont pas fondées, et comment on peut l'aider? Comment on peut intervenir pour les ramener à la réalité?
C'est pas facile, puis ça dépend du niveau d'adhésion de la personne. Quelqu'un qui commence juste à douter, à dire, ben, est-ce que ça c'est vrai ou pas, cette information-là, ça me semble réel, il y a peut-être quelque chose qu'on nous cache. C'est plus facile d'y parler, d'y montrer des preuves contraires, puis de dire, ben, lis telle source, et réfléchis comme fou avant de commencer à croire à tout ça. Par contre, quelqu'un qui est embarqué à fond, là, puis qui est vraiment dans ces mouvements-là, et souvent ces gens-là vont passer d'ailleurs des heures à discuter puis à échanger avec d'autres personnes là, qui adhèrent à cette vision-là, là, c'est plus compliqué. Vraiment, la première chose à faire, c'est peut-être de demeurer ouvert pour parler à cette personne-là, pas se fermer, pas la ridiculiser non plus, parce que sinon, elle va couper les ponts. Elle va juste dire que c'est nous qui sommes des moutons et qui ne comprenons pas. Ouais. Mais c'est une démarche qui est très complexe, très difficile. Il y a des organismes qui existent pour appuyer les gens, le Centre de prévention de radicalisation menant à la violence ou InfoSec, qui ont été vraiment sursollicités ces derniers mois, d'ailleurs.
Madame, professeure Carignan, vous êtes une experte là, de la radicalisation. Et dans les dernières années, quand on a parlé de radicalisation, on parlait de gens qui se convertissaient, par exemple, à une version extrêmement, obscurantiste de l'islam, qui s'engageaient dans un mode de vie là, très centré sur le Coran. Il y en a même qui sont partis combattre en Syrie. Mm-hmm. Est-ce que vous voyez des parallèles entre ce genre de radicalisation-là et les gens qui commencent à douter de tout, même de l'existence de la pandémie aujourd'hui?
Mais toute forme de montée en radicalisation, c'est vraiment justement une espèce d'isolement pour croire à une cause, qu'elle soit sociale, politique, religieuse. Donc oui, il y a quelques années, ce qu'on parlait surtout lorsqu'on pensait à la radicalisation, c'était la radicalisation djihadiste. Ensuite, on a eu une montée quand même de mouvements d'extrême droite, oui, qui sont fait entendre. Nous, là, on a vu la radicalisation comme, oups, ça appartient plus juste au mouvement djihadiste, mais il y a d'autres types de radicalisation qui étaient peut-être même plus forts qu'on le pensait, on le voyait juste pas. Et là, oui, en effet, ça peut être une forme de radicalisation si on se met à vraiment avoir des mouvements organisés et puis qui échangent en ligne et qui croient vraiment qu'il y a une société cachée, qui ont peur aussi de l'avenir. Ça peut être une forme de radicalisation, tout à fait.
Est-ce que vous voyez des parentés entre la radicalisation d'extrême droite qui était très, très centrée sur l'immigration et la radicalisation actuelle par rapport à la pandémie?
Mais avec la chaire UNESCO Presse, puis une équipe de chercheurs avec qui on collabore déjà en ce moment-là, on a sorti des données cette semaine sur nos recherches. On vient d'avoir un financement il y a quelques semaines. Puis ce qu'on est en train de faire, là, on a commencé depuis janvier, on récolte des données sur Twitter pour essayer de voir qui partage les thèses complotistes, les fausses nouvelles en lien avec la COVID, puis essayer de faire une espèce de cartographie de tout ça. Qui a partagé ça? Pourquoi? Avec quel dessin? On n'a pas encore tous nos résultats. On est en train d'analyser, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment des liens avec des idéologies, par exemple, d'extrême droite. Donc, différents leaders qui sont rattachés à des idéologies plus de droite qui ont aussi partagé là, des thèses conspirationnistes en lien
Donc,
avec la COVID.
Sans vous mettre des mots dans la bouche, ce sont les mêmes DJ, mais ils ont changé de disque.
Ils ont intégré des nouveaux discours, mais on va vraiment avoir plus de données là-dessus pour vraiment voir là, un peu comment ça s'est partagé avec une cartographie de qui a partagé ce genre de discours-là. Là, on devrait avoir ça dans les prochains mois.
Très intéressant. Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé, professeur Carignan.
Avec grand plaisir.